teachings of His Majesty. For we know one, no devil philosophy.
Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Plusieurs audiences accordées hier lundi par le président Alassane Ouattara en marge de Africa CEO Forum. On fera dans quelques instants le point de ces rencontres essentiellement axées autour du développement économique en Côte d'Ivoire. Justement, la Côte d'Ivoire va renforcer ses actions en matière de gestion des déchets plastiques. Information du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy. C'était hier au cours de la cérémonie officielle de la Journée mondiale de l'environnement. Le pays a accueilli cette année à Abidjan la 50e édition. L'actualité hors de nos frontières nous conduira au Sénégal. Un maître coranique soupçonné d'avoir violé 27 écolières a été arrêté hier par la police. Et puis l'invité de la rédaction sera Alfred Kouassi, chef de projet élection inclusive à la COPSI. Eh bien, il nous dira comment améliorer la participation des personnes vivant avec un handicap aux élections. Alfred Kouassi, en fin d'édition, sera interrogé par Francis Cassi. En marge de sa participation à Africa CEO Forum, hier lundi 5 juin, le chef de l'État a accordé plusieurs audiences, des émissaires de Sao Tomé et Principe et de l'Angola, tout comme les patrons de la Société financière internationale et du département Afrique du FMI, ont discuté avec Alassane Ouattara et Carlos Condé nous en parle.
D'abord avec Patrice Emery Trovoada, Premier ministre de Sao Tomé et Principe. Il a été question de félicitations et de rapports bilatéraux entre les deux pays.
J'étais tout d'abord saluer le président que je connais depuis quelques années, le féliciter pour l'organisation du forum. Je crois que le forum CEO Africa s'est devenu un incontournable pour la promotion et les échanges et aussi parler de certaines questions qui ont trait à nos relations bilatérales.
Maktar Diop, directeur général de la Société financière internationale SFI, a pour sa part fait le point avec Alassane Ouattara de l'intervention de sa structure dans le pays en 2022.
Notre programme ici a augmenté de manière significative, donc c'était vraiment pour rendre compte au chef de l'État des progrès que nous avons réalisés au cours de l'année passée et donner un peu une idée d'investissement que nous avons discuté avec le secteur privé et les ministres.
Abebe Aemoro Selassie, directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, a parlé de moyens de mobilisation, de ressources et des programmes sur lesquels le FMI appuie la Côte d'Ivoire. Le président ivoirien a terminé ses rencontres avec le ministre d'État angolais, Adao Francisco de Correa de Almeida. Il était porteur d'un message du président João Lourenço à son homologue ivoirien.
La 4e réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana a eu lieu le vendredi 2 juin dernier au Ghana. Occasion pour Kone Brahima Yves, le directeur général du conseil du Café Cacao de Côte d'Ivoire, de dresser le bilan de la mise en œuvre du DRD, le différentiel du revenu décent par les industriels du secteur de la transformation du cacao. Nous l'écoutons.
Le DRD a été un élément pour permettre de donner un meilleur prix aux planteurs. Mais vous avez suivi les différents développements par rapport au comportement de nos partenaires de la filière. Dans cette même salle, nous avons signé le pacte économique. Et en signant le pacte économique, nous avons mis en place des comités techniques qui travaillent de manière à pouvoir trouver des solutions pour que le marché intègre définitivement le DRD et de manière à mieux payer le planteur. Vous savez, nous sommes partis de loin pour arriver à quelques résultats. C'est parce que nous ne donnons pas les résultats tous les jours. Les partenaires du marché ont joué sur un élément, la prime qui bonifie chaque pays. Ils ont joué sur cette prime pour diminuer le différentiel, les revenus décents. Mais nous sommes restés très vigilants et solides en ce qui concerne les deux pays. Le secrétaire exécutif d'initiative qui est là tient des réunions périodiques avec les salles de marché. Et ensemble, nous fixons les conditions de mise en marché du cacao. Donc nous avançons doucement. Le DRD, nous ne l'avons pas récupéré totalement, mais on n'est pas loin. à l'heure actuelle. Ce n'était pas facile, nous sommes pas de très loin, mais nous avons avancé.
À l'instant, vous écoutiez Kone Brahima Yves, directeur général du conseil du Café Cacao de Côte d'Ivoire. Le groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, GIM-UMOA, a lancé une campagne commerciale sur la promotion du paiement par carte bancaire le vendredi 2 juin à Abidjan. Sur cette opération qui s'étend jusqu'au 31 juillet prochain, le compte rendu de Junior Cardin.
À cette cérémonie, Luc Penou, directeur commercial et marketing de GIM UMOA, a expliqué l'objectif de cette initiative.
Nous devons, à travers cette campagne, démontrer aux populations, aux usagers, des commerçants que le paiement par carte bancaire est un paiement sécurisé, fiable, rapide. Le second objectif, c'est d'accompagner les banques membres du GIM UMOA pour qu'elles puissent mieux servir la clientèle habituelle et inciter ceux qui n'avaient pas l'habitude de faire du paiement par carte dans les commerces, qu'à travers cette campagne, ce soit pour les banques et nos partenaires bancaires, une occasion d'acquérir en fait de nouveaux clients.
C'est une nouvelle culture qu'il faut inculquer aux populations, a renchéri Aristide Boni, président du Comité monétaire national.
Donc aujourd'hui, il est important qu'on puisse donner certaines éducations à nos porteurs de cartes. On remarque toujours que le porteur de cartes va au DAP faire des retraits et va faire des paiements dans les différents magasins. Mais il n'a pas cette culture de faire le paiement avec sa carte. Et donc cette campagne est la bienvenue pour qu'il puisse utiliser les différentes cartes pour faire du paiement chez les commerçants.
Les banques se montrent prudentes face à ces nouvelles exigences, d'où cette assurance donnée par Nanga Koulibaly, président des experts monétiques.
On a constaté que les banques hésitent beaucoup. À chaque fois qu'il y a des exigences qui sont issues du comité des experts, en général, les exigences que nous publions sont une façon d'encadrer et de réglementer les échanges monétaires entre les différentes banques. Donc nous, on vous invite aujourd'hui à adhérer donc à toutes les exigences que nous pondons.
La campagne de sensibilisation qui dure 2 mois doit insister sur le fait que le paiement par carte bancaire est gratuit pour tout client.
Célébration hier lundi 5 mai de la Journée mondiale de l'environnement. C'est la Côte d'Ivoire qui a abrité hier lundi 5 juin, la cérémonie officielle, précisément à Abidjan-Cocody. Pour cette 50e édition, l'accent a été mis sur la lutte contre la pollution plastique. Le reportage de Ghislain Koulibaly.
Vu la gravité de la situation, la Côte d'Ivoire prend un décret en 2013 pour faire face à la question des déchets plastiques. Mais il faut aller au-delà. Jean-Luc Assy, ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement durable.
La Côte d'Ivoire continuera à mener des actions en renforçant le partenariat public-privé, en accompagnant plusieurs entreprises dans la gestion durable des déchets plastiques au travers d'une approche d'économie circulaire, de création d'emplois verts, des changements profonds dans le comportement du citoyen et des mises en place d'un cadre juridique renforcé et incitatif.
D'autres solutions au plan mondial et beaucoup plus globales sont proposées ici par la directrice exécutive du programme des Nations Unies pour l'environnement, Inger Andersen.
Les mondes produisent plus de 400 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année. Il faut redéfinir la conception de l'emballage pour réduire les quantités de plastique. Il faut redéfinir la conception du système et des produits pour faciliter la réutilisation et le recyclage.
Les artistes ont aussi un grand rôle à jouer et c'est le cas de Rocky Daouni, ambassadeur de bonne volonté des Nations Unies pour l'environnement, présent à cette cérémonie et qui a gratifié le public d'une prestation et d'un message portant sur la lutte contre la pollution plastique.
And God bless us all in our efforts to beat plastic pollution. We know that we can do it together.
Pendant ce temps, le ministère des Transports a procédé le samedi 3 juin au lancement de la 5e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Les nouvelles plaques d'immatriculation et la saison des pluies sont les principales particularités de cette édition qui prend fin le 10 juin prochain. C'est ce que nous apprend Étienne Kouakou. Il est conseiller technique du ministre des Transports en charge des questions de sécurité routière.
Pendant cette période, des postes de sensibilisation et de répression seront tenus sur l'ensemble des principaux axes accidentogènes et dans les principales villes du pays. Des actions de sensibilisation et éventuellement de répression seront axées sur les infractions récurrentes qui ont été constatées lors des éditions précédentes. Il s'agit notamment des excès de vitesse, de l'usage du téléphone au volant, des défauts d'éclairage sur les véhicules, de la conduite en état d'ivresse ou sous l'effet de substances psychotropes, de l'utilisation du gaz, du butane comme source de carburant, de l'état des pneumatiques. C'est le lieu d'indiquer que depuis le 1er juin, le nouveau système d'immatriculation des véhicules a été lancé par Monsieur le ministre des Transports. Je voudrais donc inviter tous les propriétaires de véhicules dont les plaques sont détériorées ou dont les véhicules ne sont pas encore immatriculés à se mettre en règle. La particularité de cette édition est qu'elle se déroule en pleine saison des pluies. Aussi, un accent particulier sera-t-il mis sur le bon état du dispositif d'éclairage du véhicule, sur le bon état des essuie-glaces, le bon état des pneumatiques, le respect de la distance de sécurité. Au cours de la présente édition, un intérêt particulier sera accordé aux usagers des deux roues motorisées.
Un autre ministère, celui de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, qui a procédé hier lundi à Botro, dans la région de Gbeke, au lancement officiel des épreuves écrites du CEPE et de l'entrée en sixième. Selon la ministre Kone Marietou, la grande innovation cette année, c'est la décentralisation des centres de composition pour les personnes handicapées. Joseph Assalé, notre correspondant de région, nous donne des détails.
L'examen du CEPE de l'entrée en sixième comporte des innovations au titre de cette année 2023 selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, professeur Kone Marietou.
Cette année, nous délocalisons. On ne peut pas toujours rester à Abidjan pour lancer les examens. Nous sommes venus pour la première fois à Botro, dans le Gbeke. La particularité, c'est qu'au fur et à mesure, nous essayons de rapprocher les centres d'examen des populations. À Botro, il y avait 3 centres et désormais, il y en a 4. Je crois que l'année prochaine, ainsi de suite, nous allons augmenter le nombre de centres pour rapprocher, comme je l'ai dit, les centres d'examen des élèves. Une autre innovation pour l'examen du CEP cette année, avant, il y avait un seul centre pour les personnes handicapées et c'était à Abidjan. Maintenant, nous avons délocalisé également. Cette année, il y a 7 centres pour les handicapés.
S'adressant aux candidats, elle les a invités à s'éloigner de la tricherie. Propos soutenu par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, par ailleurs cadre de la région. À Saoré, Kouna, Jacques.
La lutte contre la tricherie, c'est le cheval de bataille de Madame la ministre depuis qu'elle est venue. Nous adhérons à cette démarche parce qu'on ne peut pas construire une société avec des tricheurs.
Au plan national, ce sont 654 531 candidats qui affrontent les épreuves du CEPE et de l'entrée en sixième. Dans la région de Gbeke, ils sont 23 106 candidats qui composent dans 93 centres d'examen. Joseph Assalé, Botro, Radio de la Paix.
Hors de nos frontières, un maître coranique sénégalais soupçonné d'avoir violé 27 de ses écolières à Touba a été arrêté hier lundi. L'homme a été appréhendé dans cette ville du centre du pays. Ceci après plusieurs semaines de fuite, comme indiqué à l'AFP, un responsable policier. L'affaire a éclaté lorsqu'une des filles, refusant de retourner à l'école, a accusé le maître coranique d'entretenir avec elle et toutes les autres filles des rapports sexuels. Retour en Côte d'Ivoire pour l'invité de la rédaction qui aujourd'hui est Alfred Kouassi, chef de projet élection inclusive à la COFSI, Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous en saurons davantage sur comment renforcer la participation politique et citoyenne des personnes handicapées dans les processus électoraux. Là-dessus, Alfred Kouassi répond ici aux questions de Junior Cardin.
Bonjour monsieur le chef de projet.
Bonjour monsieur.
La dénomination de ce projet et puis qui en est l'initiateur?
Le projet s'appelle projet de renforcement de la participation politique et citoyenne des personnes handicapées dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire. Et le projet est porté donc par la COFSI, la Confédération des organisations des personnes handicapées, et cofinancé par l'Union européenne et l'ONG internationale de développement CBM. Alors ce projet est un projet de 3 ans qui tire donc à sa fin, qui devait finir même au mois de janvier 2023, mais qui a été prorogé jusqu'en juillet 2023. Ce projet donc vise à faire en sorte que les personnes donc en situation de handicap, que ce soit le type de handicap arrivent à participer au processus électoral dans les pays. Il s'agit de voir comment adapter les lieux de vote pour qu'une personne, par exemple en fauteuil roulant, puisse avoir accès au bureau de vote. Comment faire en sorte que l'information qui est donnée dans la période électorale puisse être comprise et même perçue par tous, notamment les personnes avec un handicap sensoriel. Aujourd'hui, le problème, c'est que les personnes sourdes n'ont pas accès à toutes les informations parce que les messages qui sont donnés, même quand le président de la CEI vient dans le journal de 20h pour annoncer les différentes mesures concernant la question électorale, le message n'est pas transcrit. Je veux dire qu'il n'y a pas de sous-titrage pour une personne sourde. Il n'y a pas non plus d'interprétation en langue des signes. Donc, la personne sourde n'a pas l'information au même titre que les autres. Et celui qui va lui porter l'information, certainement ne va pas lui donner la totalité de l'information. Et c'est la même chose quand on fait les affiches. C'est vrai que les personnes non-voyantes ne savent pas ce qui se passe. Donc, il faut aussi qu'on leur dise, qu'on fasse les choses en audio pour interpréter systématiquement tout ce qui concerne la question électorale, mais aussi qu'on permette aux personnes de pouvoir voter et en gardant le secret de leur vote. À l'état actuel des choses, le code électoral prévoit quelques aménagements pour permettre à une personne handicapée de se faire assister par une personne de son choix, mais la personne de son choix qui l'assiste assiste aussi au choix qu'il effectue de son candidat. Alors que l'article 52 de la Constitution, qui est repris par l'article 2 du code électoral, prescrit le secret du vote. Mais nous n'avons pas le secret de notre vote et c'est pour tout ça que nous voulons que des mesures soient prises pour qu'on puisse garder le secret de notre vote.
Et c'est cette formation qui est concernée.
Aujourd'hui, nous sommes avec donc les membres de la commission électorale indépendante, les commissaires locaux d'Abidjan, parce que nous voulons leur donner des rudiments pour l'inclusion des personnes handicapées dans les processus électoraux. Nous avons eu à organiser donc un atelier en 2022 avec la CEI centrale. À la suite de cet atelier, nous avons eu des recommandations que nous voulons voir apparaître au niveau du code électoral et au niveau des modes opératoires des opérations électorales. Mais comme ce sont les commissaires locaux qui sont sur le terrain pour mettre en œuvre tout ce qui est recommandations et autres, il faut qu'on puisse leur faire connaître les besoins des personnes handicapées. Pour que déjà, même à leur niveau, ce qu'ils peuvent faire, qu'ils commencent déjà à faire, comme ce que la CEI centrale a commencé à faire. Par exemple, au niveau du formulaire de recensement électoral, déjà, la CEI centrale a inscrit la question du handicap dans ce formulaire, de sorte que le dernier recensement qui a eu lieu, les personnes en situation de handicap ont pu se faire identifier comme telles. Et ça va permettre de prendre des mesures plus tard pour leur éviter d'avoir les mêmes problèmes comme celui que moi j'avais eu en fauteuil roulant. J'avais un bureau de vote à l'étage. Et donc, je ne pouvais pas avoir accès à mon bureau de vote. Cette fois-ci, ce sont des choses qui peuvent être évitées pour ceux qui se sont inscrits donc dernièrement. Mais en même temps, il y a aussi que les commissaires locaux qui sont là, à leur niveau, quelques aménagements, même s'il faut mettre une planche pour permettre à un fauteuil roulant d'avoir accès au bureau, mais on met cette planche. Tout ce qu'il faut faire. Donc, ce sont des mesures pratiques que nous sommes venus enseigner aux membres de la CEI pour que l'application de ces mesures pratiques permette donc de faire voter facilement les personnes handicapées en gardant le secret de leur vote.
Le 2 septembre prochain, c'est les élections locales en Côte d'Ivoire. Est-ce que ces problèmes que vous évoquez pourront trouver solution ou en partie avant ces prochaines élections?
Ce que nous cherchons plus, c'est que la loi électorale soit révisée pour qu'on ait une loi électorale plus inclusive qui prend en compte toutes les spécificités et tous les besoins des personnes handicapées. Mais nous sommes conscients qu'on ne pourra pas avoir cela avant le 2 septembre, qui est vraiment assez proche. Mais ce que nous voulons, au niveau des modes opératoires des opérations électorales, on peut déjà prendre des mesures, parce que ça, au moins, c'est au niveau de la CEI, pour que, avant ces élections-là, ce qui avait été comme lacune ou insuffisance, que cela puisse être corrigé. C'est-à-dire mettre dans un lieu de vote que les personnes en situation de handicap sont prioritaires. Une personne albinos qui arrive, qu'on voit physiquement bâti, on lui dit non, monsieur, vous ne pouvez pas passer. Mais lui ne peut pas attendre au soleil. Donc, ce sont des choses qu'on doit enseigner aux membres de la CEI déjà et que cela applique sur le terrain.
Un message aux personnes vivant avec handicap?
Ouais, le message, c'est de dire aux personnes en situation de handicap que la participation à la vie publique et à la vie politique de leur pays est un droit qui leur est reconnu par les instruments internationaux ratifiés donc par notre pays. Donc, on doit prendre part, non seulement en tant qu'électeur, mais en tant que candidat. On ne doit plus laisser personne nous dire, vous n'avez pas pitié de vous-même, vous voulez maintenant vous intéresser à la question politique, mais c'est notre droit de nous intéresser à la question politique.
À travers cet appel, c'est aussi les décideurs qui sont interpellés.
Oui, mais c'est beaucoup plus les décideurs, parce que ce sont les décideurs qui doivent prendre les mesures pour qu'on puisse participer. Mais une des choses que je voudrais mentionner, c'est que nous, personnes en situation de handicap, nous avons notre société civile qui ne siège pas encore à la commission centrale de la CEI. Mais nous voulons siéger à la commission centrale de la CEI, parce que la société civile ivoirienne dans ses compartiments est représentée, sauf la société civile des personnes handicapées.
Merci donc à vous, monsieur le coordinateur.
Merci, monsieur.
Alfred Kouassi, chef de projet élection inclusive à la COFSI, Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, était avec Junior Cardin pour l'invité de la rédaction. C'est ce qui met un terme aux 12 heures, dont voici le rappel des titres. Plusieurs audiences accordées hier lundi par le président Alassane Ouattara en marge de Africa CEO Forum. En début de journal, nous avons eu le point de ces rencontres autour du développement économique en Côte d'Ivoire. Et puis justement, la Côte d'Ivoire va renforcer ses actions en matière de gestion des déchets plastiques. Information du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy. C'était hier au cours de la cérémonie officielle de la Journée mondiale de l'environnement. Le pays a accueilli cette année à Abidjan la 50e édition. Merci pour votre fidélité. À 15h, rendez-vous pour un flash information. Mais avant, la revue de presse avec Jean-Claude Comé.
Bonjour à tous. Les journées presse morte qui avaient été annoncées par le GFC et qui devaient démarrer ce mardi 6 juin pour prendre fin le 8 juin en auront